Vous écoutez le podcast Entre les deux oreilles. Le balado en santé mentale et santé mieux-être. Une présentation de Relief. Un organisme qui vient en aide aux personnes avec un trouble anxieux, dépressif ou bipolaire et leurs proches. Relief, le chemin de la santé mentale. Voici vos animateurs. Ils sont tous les deux des visages de la santé mentale et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles. Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Martin Binette au micro, 33e épisode du balado Entre les deux oreilles et premier de l'année 2024. D'ailleurs, Lydia et moi, on aimerait vous souhaiter une merveilleuse année. Une année tout en douceur et bien évidemment en bonne santé, entre les deux oreilles. Donc on débute l'année en force avec un invité de choix cette semaine, Jonathan Roberge. Jonathan Roberge est humoriste, animateur radio, comédien, mais aussi ambassadeur de la Semaine de la prévention du suicide. Organisé par l'Association québécoise de la prévention du suicide, la 34e édition de cette semaine de sensibilisation a eu lieu cette année du 4 au 10 février sous le thème « La prévention du suicide, c'est l'affaire de tous ». Juste pour vous donner du contexte, juste pour vous donner quelques chiffres concernant le suicide au Québec, 3 personnes par jour en moyenne s'enlèvent la vie. 75% des décès par suicide sont faits par des hommes. Chaque suicide laisse 6 à 10 personnes dans le deuil, et pour chaque suicide, 20 à 30 personnes font une tentative et 200 ont des idées suicidaires. Des chiffres qui donnent froid dans le dos. Le suicide, c'est un sujet sensible, j'en conviens. C'est un sujet qui n'est pas toujours facile à aborder. Mais on va le faire dans cet épisode parce que c'est une discussion nécessaire. Donc, pour paraphraser des humoristes, c'est l'histoire de deux gars, comprends-tu, qui ont voulu en finir, qui ont été sauvés par des amis et qui sont toujours en vie aujourd'hui et qui veulent redonner au suivant. Après la pause, je reçois Jonathan Roberge. Allô Jonathan, comment vas-tu?
Super bien, Martin.
Écoute, premièrement, un gros merci d'avoir accepté de faire cette entrevue-là. J'apprécie énormément, puis je suis convaincu que mes auditeurs vont apprécier aussi.
Ben, merci beaucoup à toi, Marc, d'aller de l'avant avec un sujet que je trouve pas nécessairement rose, comme je t'ai dit en entrée de jeu tantôt, off-micro, mais je me répète, puis je veux que les gens l'entendent. Les médias qui se sont intéressés à ce sujet-là, je les remercie fois mille. Parce que c'est pas, on parle pas de choses joyeuses là. Fait que tu sais, c'est pas tous les médias puis tous les balados qui veulent en parler. Puis chapeau, Martin.
Hey, merci bien. Écoute, en 2014, t'as publié un texte sur Urbania. Je t'en parle parce que c'est probablement le texte qui personnellement le plus marqué. Tomber dans le rack à pastilles. Tu sais, pour moi, c'est un texte. Écoute, je te fais un contexte. En 2014, cette année-là, c'est la première fois que j'en parlais ouvertement de mes propres enjeux de santé mentale. Fait qu'il y avait vraiment une synchronicité incroyable entre ton texte puis ma propre sortie publique. Puis quand je suis tombé sur ton texte, j'ai eu deux réactions. La première, c'est aïe aïe, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai écrit, ce texte-là. T'sais, je vis avec des crises de panique depuis ma petite enfance. Puis j'ai fait des dépressions. Je fais comme, aïe aïe, ce gars-là, il a lu dans mes pensées. Là. Puis l'autre chose, je me disais, aïe aïe, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul à vouloir en parler ouvertement. Puis ça m'avait vraiment beaucoup touché. Moi, je te pose la question, ce texte-là, est-ce qu'on t'en parle encore? Est-ce qu'il y a des gens qui t'accostent et disent, écoute, ce texte-là a changé ma vie? Ou, par exemple, ça m'a vraiment, je l'utilise encore, je le relis constamment.
Pas plus tard que hier, on m'en parlait. J'étais en conférence à la Polytechnique. J'ai un étudiant qui est venu me voir après, qu'on marchait tout seul dans le corridor, puis il me dit « Hey, ma mère m'avait envoyé ton texte parce que ça faisait des années que j'essayais de mettre des mots. Je suis pas un gars qui communique bien. » Puis c'est comme si t'étais le porte-parole de ce que je vivais. Puis à la base, le texte, c'était ça. Le texte, c'était « Je m'étais levé le matin. » J'avais oublié que j'avais un texte Urbania à livrer, puis je faisais toujours dans l'humour à l'époque.
Ouais.
Et J'ai oublié d'envoyer un texte et j'ai un message d'un ami dont je vais taire le nom qui m'écrit pour la troisième nuit consécutive. Pendant la nuit, pendant que je dormais, il m'a envoyé un long message. Joe, je suis plus capable. Je pense que je fais vraiment ce que tu faisais il y a une couple d'années. Peux-tu juste me réexpliquer les symptômes? Parce que sinon, je vais aller à l'OIH, je suis en train de virer fou. Puis je vais mettre, hey, wait, wait pour vrai avant d'aller à l'OIH, là. Je te le dis tout de suite. Je sais que tu vas aller chercher de l'aide, mais écoute, tu sais, et là, je l'ai appelé, j'y en parlais, puis il me disait, hey Joe, pour vrai, tu devrais tellement parler à tellement de monde, puis je fais, hey, sais-tu quoi? OK. Et j'ai pris mon laptop, là, et je te le jure, c'est vrai, Martin, c'est le seul texte sur Urbania que j'ai écrit et un des seuls textes dans ma vie qui a été une V1, une version 1, que je n'ai pas relu et retapé les phrases. J'ai juste lancé tout, puis je l'ai livré en me disant, ish, j'ai hâte de voir si Urbania vont oser le publier, tu sais. Et au contraire, ils l'ont publié en disant, hey, c'était écœurant comme texte, Joe, ça va aider les gens. Et il n'y a pas une semaine qui passe dans ma vie, Martin, sans qu'on m'en parle pas. Pas une.
Quand tu as écrit ce texte-là, et tu l'as dit, tu as fait ça à un jet, là, ça venait du cœur. On est en 2014, on parlait pas autant de santé mentale à l'époque. As-tu peur, parce que tu sais, on parle beaucoup de stigmatisation autour des enjeux de la santé mentale au niveau de la prévention du suicide. Est-ce que tu as peur des répercussions? As-tu une certaine crainte de la réaction des gens quand tu l'envoies, par exemple, à Urbania, puis tu sais que ça va être publié?
Honnêtement, même pas. C'est dans les journées qui ont suivi, quand j'ai vu la viralité que le texte avait demandé, là, ils se sont rendus de mémoire. Je veux pas inventer un chiffre, mais approximatif. Maintenant, on est rendu à comme 200 quelques mille partages.
Wow.
Puis là, j'ai fait, oh shit. Là, l'expression shit vient de hit the fan. Là. Ça va voler partout. Je vais perdre des contrats. Le monde va en avoir. Mais sur le coup, moi, je le faisais plein de bonté pour aider le monde qui filait pas, tu sais. Puis est-ce que ça m'a coûté des contrats? Peut-être, tu sais. Puis, mais en même temps, je me dis, ça a coupé les mauvais contrats. Tu sais, si t'es pas prêt à m'engager parce que tu sais que je fais des attaques de panique une fois de temps en temps ou que j'ai eu par le passé des enjeux, mais c'est vraiment toi le problème. Tu fais partie du problème. Donc, ça me fait plaisir à la limite que tu m'engages pas. Mais ça, je te le dis là aujourd'hui avec des années, tu sais, 10 ans plus tard, là. Mais sur le coup, c'est pas comme ça que je le voyais les premières semaines. J'étais fâché. Mais, aujourd'hui, je regrette aucunement. Je suis même très fier d'avoir fait ce texte-là. Peu importe l'image que ça a pu me donner.
T'es porte-parole, ambassadeur de la semaine de la prévention du suicide. On est drette dedans cette semaine. Je sais que tu as été très occupé. Pourquoi c'est important pour toi d'être la voix de ceux et celles qui ont tenté, qui sont partis, ceux qui restent? Pourquoi c'est important pour toi d'être l'ambassadeur de la prévention, de la semaine de la prévention du suicide?
Plusieurs raisons. Je vais essayer avec ma grande trappe de faire ça en pas trop longtemps comme réponse. Mais OK, un, j'ai perdu beaucoup d'amis. Ben beaucoup. Je n'ai perdu trois au courant de ma vie, des amis proches à l'école secondaire. J'ai une amie qui s'est enlevée la vie. Après ça, ça a été un autre, ça a été un collègue de travail. Et dernièrement, durant la pandémie, mon cousin, tu sais. Et à chaque fois, j'ai eu énormément de culpabilité. C'est en thérapie où ma psy me disait, ben, t'as pas à te sentir mal, tu sais, t'as fait ce que t'avais à faire, puis t'as été là pour les écouter à chaque fois. Tu sais, il l'aurait fait de toute manière. Tu sais, tous ces trucs-là, tu sais, pour m'aider. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, il faudrait que je fasse plus. Puis là, je m'étais monté une conférence qui parle des enjeux de la santé mentale, tu sais. Puis je donne des trucs, surtout, je suis vraiment dans le mode solution, de comment moi je fais pour aller sur des plateaux de tournage puis d'être en direct à la radio, malgré le fait que j'ai l'anxiété dans le tapis, puis à quel point ça me gruge, mais que je laisserai pas ça brûler mon rêve, tu sais. Et chaque fois que je faisais cette conférence-là, je parle, mettons, de dépression, c'est correct, je parle de burn-out, c'est correct, je parle de crise d'angoisse, de l'attaque de panique, je parle d'agoraphobie, tout ça passe, là, puis je sens que le monde, là, tu sais, puis je demande au public, est-ce que vous avez déjà vécu ça? Puis le monde, oui, ça applaudit. Et quand j'arrive et que je parle que moi, à un moment donné, en 2009, ça fait 15 ans, là, ça a duré 2 jours et je me rappelle exactement ces 2 jours-là où j'ai eu des idées noires, où je me suis dit, je mets fin à ma vie, je suis tanné de souffrir des attaques de panique à répétition, que j'ai écrit une lettre, que tu sais, dans ma tête, c'était, je m'enlève la vie parce que je suis plus capable de souffrir. J'aborde ce sujet-là dans la conférence et je sens l'énorme malaise, Martin, là. Là, il n'y a plus personne qui est à l'aise durant la conférence. Puis j'étais comme, hey, il y a un bobo là qu'il faut que je gratte, là. Et après chacune des conférences, les gens m'écrivaient. Mais pas pour me parler d'attaque de panique ou de crise d'angoisse ou très peu. Et ils me parlaient du suicide. Et pourtant, dans la salle, il y avait un malaise. Puis ça faisait peut-être un an et demi, je disais à mon gérant, j'aimerais ça éventuellement, si on va faire un documentaire, quelque chose pour juste aider le monde à, comme tu l'as dit, tu sais, la validation, toi, ça t'a aidé. J'ai mis des mots sur, la vie me donne un talent de communiquer puis d'avoir une grande gueule et me donner une bad luck d'avoir ça. On va les mettre les deux ensemble puis on va faire quelque chose avec ça, tu sais. Et bang, ça tombe du ciel. Je reçois un appel, l'OQPS qui me demande d'être ambassadeur pour eux. Je te dis, il n'y avait même pas la question de y a-t-il un salaire, y a-t-il ci, y a-t-il ça, c'est quoi, ça a tout été oui. Puis mon gérant, il dit, attends, tu sais même pas c'est quoi ça, c'est oui, oui, peu importe. Steph, c'est carrément ce que je demande depuis des années. Je veux aider des gens à se faire valider par faire, hey, ça arrive à tout le monde de faire ça, d'avoir ces idées-là, puis on va essayer de s'aider tout le monde ensemble puis d'aborder le sujet d'une manière plus relaxe. Donc, j'ai même pas hésité. C'est la raison, c'est les nombreuses raisons pour lesquelles j'ai dit oui sans hésiter.
Tu viens de dire d'aborder le sujet plus relax. C'est pas un sujet facile, c'est un sujet hyper sensible, hein? Tu l'as mentionné. C'est quoi la place de l'humour, hein? T'es humoriste. C'est quoi la place de l'humour dans la déstigmatisation, dans la sensibilisation d'un sujet aussi sensible? Est-ce qu'on peut utiliser l'humour dans un sujet qui est aussi touché? Ou on préfère garder ça comme un peu plus corporate, comme on en parlait avant l'entrevue?
Je pense sincèrement que l'humour a sa place dans toute sphère de vie. Je pense que l'humour nous permet de passer au travers des épreuves incroyables. Je pense que l'humour, si c'est bien ficelé, bien écrit, bien amené, puis que ta personnalité fait en sorte que tu es capable de l'amener avec un sourire, honnêtement, je pense que l'humour a sa place n'importe où. Je vais même aller plus loin que ça. Tu sais, on traverse avec ma famille puis mon fils un cancer depuis 4 ans.
Ouais.
Et c'est l'humour qui nous tient soudés. Je veux dire, avec mon ex qui est sa mère, avec le chum à son père, avec Xa, avec ses amis, avec tout le monde, on fait de l'humour avec ça, on fait des jokes de cancer, et c'est ce qui nous permet de continuer à vivre et d'être heureux, tu sais. Donc, de l'aborder en conférence puis de le faire avec un petit sourire puis de dire à quel point est-ce que j'étais rendu dans ma douche à me trimer la barbe, moi, là, avant d'écrire ma lettre. Puis je me disais, il faut qu'il me trouve propre. T'sais. À quel point on veut être propre tout le temps? T'sais. Puis le monde part à rire. Puis non, je vous le dis, j'étais rendu là. Je vous jure, c'est vrai. Je me suis trimé, moi, avant d'écrire ma lettre. T'sais. Puis là, ça fait rire le monde. Puis t'sais, de l'amener d'une manière qu'on fait, ah, hein? Le petit sourire, souvent, il vient désamorcer beaucoup, beaucoup de choses. Puis je pense que l'anxiété peut être déjouée. Moi, je la vois comme une grosse bête noire. Là. Mm-hmm. Et on peut y faire une triple feinte, là, puis les jokes font partie de ça.
Tu as parlé récemment de ta tentative en 2009. Mm-hmm. Tu me corrigeras si je me trompe, mais tu as déjà mentionné, je pense que c'était dans une entrevue, que c'est des amis qui t'ont sauvé au bon moment, là, t'sais, à la dernière minute. Puis moi, ça me touche parce que cette tranche de vie, si tu permets, 2004, même chose que toi, je suis tanné de souffrir. Mm-hmm. J'ai mon comment, j'ai mon où, j'ai mon quand, mm-hmm. mon fameux coq.
Ouais, ouais.
10 décembre 2004, je procède, je commence à écrire ma lettre, mon cellulaire à l'époque c'était les Nokia, là, les flip phones qui sonnent, puis c'est mon chum qui m'appelle, il dit t'as-tu des plans à soir le gros, j'ai dit c'est un vendredi, je dis ouais j'ai des plans mais je vais pas plus loin, il sent que ça va pas bien, il vient me chercher. Quand tu parles au bon moment, Je suis capable de comprendre ce que tu as vécu parce que j'ai eu la même chance, puis c'est le plus beau cadeau qu'on m'a offert, c'est d'avoir un ami qui ait cette vigilance puis cet amour de venir me chercher alors que je voulais m'en aller. C'est quoi l'importance des proches, des amis, quand on va pas bien?
On sous-estime beaucoup le support de l'entourage. Puis je pense que, mettons, en tant qu'ami ou de membre de famille, que tu peux regarder quelqu'un autour de toi qui a pas l'air de bien aller, on sait jamais comment l'aborder. Ben, je pense qu'il y en a pas de bonne façon puis de mauvaise façon.
Ouais.
Je pense que tu interviens, point final. Et, tu sais, ton ami qui t'appelle, qui fait, as-tu des plans à soir? Non, ben, gars, tu vas en avoir des plans puis on va aller faire quelque chose puis on va, puis même moi aujourd'hui, des fois, je vois quelqu'un qui va pas puis je suis comme, tu me trouves gossant, je sais, mais tous les jours, je vais te dire que je t'aime, là. Mm-hmm. Tu sais, que ce soit quelqu'un qui dernièrement me disait qu'elle allait pas, là. Tous les matins, j'écrivais, je t'aime parce que, puis là, j'écrivais un inside, tu sais, de quelque chose qu'on a fait ensemble. On s'en fout que t'es là lourd. On s'en fout parce qu'avec du recul, tu vas tellement être fier de toi d'être intervenu dans une situation dans laquelle tu sais que ton ami allait pas bien, ou le membre de ta famille, ou ta blonde, ou ton ex, ou, et tu peux pas non plus tout prendre sur tes épaules, mais ça fait partie aussi du message que je veux porter aux gens de pas peur d'aller voir quelqu'un puis de juste faire, t'as pas l'air d'aller, ça se dit à quelqu'un. Moi, j'y crois, t'as pas l'air de bien aller. Puis là, la personne fait, ah ouais, tu je hey, moi, ouais, t'as pas l'air de bien aller, puis je suis là, puis peut-être qu'asseoir une petite bière ou tu viens écouter l'hockey chez vous, veux-tu qu'on joue au PlayStation ensemble, veux-tu qu'on jeu de société, veux-tu qu'on n'importe quoi, tu sais, juste pour y redonner le goût à tout ça, tu sais, de faire, il y a du monde qui t'aime, puis souvent, les gens comme toi et moi qui se sont rendus tout près de commettre l'irréparable, c'est qu'on a l'impression qu'on est un fardeau pour les gens, tu sais. Moi, c'était ça aussi qui revenait beaucoup. Je suis tanné de souffrir, puis je sers à quoi, là, tu sais, je suis juste un boulet, là. Puis quand j'ai senti que le boulet, finalement, c'était un boulet d'amour où j'étais, là, tous mes amis me disaient à quel point qu'ils m'aimaient, puis que je pense qu'il faut jamais sous-estimer la petite main que tu mets sur l'épaule en faisant « Hey, je suis là ». Juste cette phrase-là, là. Tu sais, on voit des pubs à la télé du gars qui marche dans le parc, puis son ami qui met la main sur l'épaule. C'est pas pour rien, c'est parce que des gens l'ont vécu, puis que si tu t'es rendu à pas aller bien, puis que là, on est deux à vous le dire, là, ceux qui nous écoutent, là. T'as Martin, puis t'as moi qui dis. Moi, j'ai des amis qui sont venus cogner dans ma porte patio la journée que je pensais le faire, là, le fameux coq, là. Moi, je savais où, quand, comment, puis quelle heure, puis tout, puis... Et ça a cogné à ma porte. Et c'est une amie qui se pointe en disant « Hey, je t'ai emmené des CD de méditation. J'ai parlé avec des amis, on a décidé de plus te laisser tout seul. Deal with me. » Puis j'étais comme « Hey, non, tu peux t'en aller, Catherine, c'est correct, là. » Et si cette journée-là, on s'assoit pas dans les escaliers chez nous, puis qu'on se met pas à jaser, puis je m'ouvre pas, puis que je sais pas ce que je fais, tu sais, peut-être que je me serais jamais rendu, puis je l'aurais pas fait, là. Si c'est pas de mon amie Catherine qui vient cogner à la porte cette journée-là, je dis pas que je l'aurais fait absolument, mais j'étais quand même en train d'écrire une lettre, puis j'étais en train d'estimer combien de médicaments qu'il fallait que je prenne, tu sais, puis je m'étais pesé. Tu sais, pour savoir si le médicament, wow. Tu sais, quand t'es rendu là, tu sais.
Ouais.
Puis que là, ça cogne à ta porte passion en arrière de chez vous. Puis qu'est-ce que tu fais là, toi? Puis là, elle rentre chez vous. Puis là, mes amis, après ça, qui se pointent le soir à écouter le hockey. Puis le lendemain, c'est mon petit frère qui se pointe. Puis fait, non, 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 tu seras plus tout seul tant que tu vas pas voir une psy. Tu faisais 3 mois que j'étais enfermé chez moi à voir personne, tu sais. Puis de mon ex aussi, qui était là tous les jours à me dire combien que j'étais important pour notre fils. Puis elle voyait que j'allais pas, là. Mais si c'est pas de ces gens-là, je sais pas ce que si je suis là aujourd'hui, là.
Une brève pause pour remercier nos partenaires qui supportent Entre les deux oreilles et permettent la réalisation de ce balado. Entre les deux oreilles aimerait tout d'abord remercier Relief, le chemin de la santé mentale. Au cours de notre vie, il est normal de rencontrer des hauts et des bas. Ces irrégularités façonnent qui nous sommes et nous rendent toutes et tous uniques. Mais pour les personnes vivant avec l'anxiété, la dépression ou la bipolarité, et leurs proches, ces passages plus sinueux peuvent parfois se transformer en montagnes. C'est pour ça que Relief existe, pour vous aider à vivre avec votre relief à vous. Parce qu'avoir les outils pour reprendre votre santé mentale en main, c'est déjà être sur la bonne voie. Relief offre plusieurs services pour vous aider à vivre avec l'anxiété, la dépression ou la bipolarité. En groupe ou individuel, peu importe la voie que vous choisirez, l'approche de Relief demeure la même, le soutien à l'autogestion. Pour de plus amples détails, visitez le site relief.ca. À nouveau, pour des détails sur les services de Relief, le chemin de la santé mentale, visitez le site relief.ca, soit relief.ca. Entre les deux oreilles, j'aimerais aussi remercier InPower. InPower est une entreprise de Montréal qui se spécialise dans la mesure et l'amélioration du bien-être. InPower a développé la première application mobile d'auto-coaching qui permet à l'utilisateur de mesurer son état de bien-être physique, mental et social sur plus de 30 aspects de vie, d'intervenir sur certaines perturbations de son quotidien et de mesurer l'impact de ses actions sur son bien-être. InPower a aussi développé pour les organisations une solution intégrée et complète en matière de promotion et de prévention de la santé et du mieux-être pour les entreprises qui luttent contre le présentéisme et l'absentéisme. La démarche InPower aide à améliorer le mieux-être des employés et le rendement des organisations en faisant appel aux sciences sociales, au développement personnel et à l'analyse des données. Pour connaître les bénéfices de la solution InPower pour les organisations et les humains qui la composent, visitez le site inpower.com. À nouveau, pour obtenir plus de détails, visitez le site inpower.com, inpower.com. De retour à l'épisode. Tu parles de ton fils. Encore une fois, c'est ça revient au début de l'entrevue quand je disais que j'avais lu ton texte, puis je me reconnaissais dans l'entrevue d'aujourd'hui. Je me reconnais tellement parce que quand j'ai voulu passer à l'acte, Jonathan, j'avais un petit garçon de 3 ans. Puis il y a beaucoup de gens, quand je fais des conférences, qui me disent, ouais, mais Martin, t'avais un petit gars. C'est comme si c'était un peu, cherche le mot, un peu égoïste, ce geste-là, en disant, ouais, mais t'as pas pensé aux autres. Moi, je leur réponds toujours, puis je suis curieux de t'entendre. Je dis, ben, c'est parce que le goudron, là, j'appelle ça du goudron, là, a tellement pris possession de mon cerveau que j'arrête pas à raisonner, là. Les pensées que j'ai, là, sont vraiment all over the place. C'est que je suis en train de me dire, ben, mon gars, ben, après une couple d'années, il se rappellera plus de son père. Ma conjointe, va trouver une autre personne, puis that's it, that's all. Je vais juste être un vieux souvenir. C'est ça, on perd la raison, hein. Carrément, on perd la raison, puis on n'arrive pas à raisonner puis de dire, ben voyons donc, je vais faire de la peine ou je vais causer vraiment une peine incroyable si je quitte. Mais on n'est pas capable de raisonner à ce moment-là. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu te sentais?
Exactement. Moi, souvent, je dis que c'est un... Donc, tu utilises goudron. Moi, j'appelle ça une pile de roche. C'est comme si j'étais une pile de roche en dedans, là, bien pesante, là, et que tout est lourd, et qu'entre les petites fentes, il y a plein de petits... Je m'excuse, je vais sacrer. De petits cris de serpents sinqueux, là. Des rattlesnakes, là. Comment on est en français, des rattlesnakes? C'est
Les serpents à
des serpents
sonnette.
à sonnette, oui, c'est ça, exactement. Qui se sont infiltrés entre les roches. Là, il y en a plein. Puis que là, t'es pris là-dedans. Puis moi, je me disais, quand j'étais vraiment down, je me disais juste, excellent, je serais pas un boulet pour cet enfant-là, tu sais. Je vais même l'aider à la limite, là, tu sais. Je serais pas un père aigri de la vie. Puis mon ex aussi va refaire sa vie, puis elle va trouver quelqu'un de mieux que moi. Puis à un moment donné, ça a flippé de l'autre côté. C'est en thérapie, ma psy, on parlait beaucoup de la foi que j'y avais pensé, puis de ces 2 journées-là dans ma vie, puis qui sont pourtant 2 jours, là, tu sais, ça me définit pas comme individu, j'ai 40 ans, puis mon Dieu, je peux même pas croire que ces 2 journées-là, je m'en allais le faire, tu sais, c'est comme... Et après ça, j'étais comme, mon Dieu, tout ce que j'ai manqué, tu sais, tout ce que j'aurais manqué, je veux dire, fait que ça a été, ma motivation est finalement devenue mon fils. Mais c'est en thérapie, parce que sur le coup, je suis pareil comme toi, tu penses qu'en mode solution, je vais aider tout le monde si je m'en vais, là. Moi, je sais être moins lourd, tu sais. Puis là, aujourd'hui, je suis comme totalement l'inverse, tu sais. C'est comme, voyons, c'est mes 2 gars sont mon moteur, tu sais. C'est comme, j'ai mon moteur à moi aussi, je vais être heureux, là. Je dis, ça dépend pas d'eux, là, mais je veux dire, c'était comme, aïe, je m'en allais faire ça à quelqu'un qui, toute sa vie, lui, aurait été en thérapie, essayer de comprendre, c'est-tu de ma faute? J'étais petit, j'étais-tu gossant? J'étais-tu, tu sais. C'est comme, je me l'ai mis de l'autre côté en faisant, oh mon Dieu, je m'en allais faire ça à quelqu'un. Je m'en allais le remplir de roches à mon tour, tu sais. Fait que non, moi, c'est devenu par après, mais c'est vrai que sur le coup, non, tu penses que tu vas même l'aider, tu sais.
Ah, puis je te fais une autre petite confidence en. Moi, j'ai une petite fille aussi de 14 ans qui était bien évidemment pas née quand j'ai pensé à passer à l'acte. Puis en fin de semaine, non, le week-end d'avant, elle a commencé à faire des cours de drum, puis elle a commencé à jouer du drum. Puis moi, j'étais un petit gratteux de guitare, puis on s'est enregistré, puis on a joué une toune que j'écoutais à l'époque, qui était du Radiohead, qui est High and Dry. On a joué ensemble, on s'est enregistré. Pas de faire, je l'écoute à peu près 3, 4 fois par jour. Puis à chaque fois, je pense à ce fameux soir de décembre 2004, puis je me dis, aïe, j'aurais manqué ce moment-là. C'est ça, moi, que je pense beaucoup. Puis je sais pas, t'en as parlé, tu dis, waouh, j'aurais manqué tellement de beaux moments. C'est difficile quand t'es dans le puits sans fond de penser à ça, mais en rétrospective, de voir tout ce que j'aurais manqué. Mon gars qui a joué dans le film Cœur de Slush cet été, puis que j'ai été le voir au cinéma. Tu sais, il y a plein de belles choses qui t'arrivent, puis tu te dis, cet événement-là m'a tellement marqué, me fait peur, carrément me fait peur. Puis je me dis, j'aurais manqué tellement de belles choses dans la vie. C'est un peu le message que j'essaie de donner en conférence. C'est-tu un peu le même message que tu essaies de dire en tant que porte-parole en disant, écoutez, il y a du beau, il y a du beau.
Y a tellement de beau. Puis moi, souvent, là, je le décris comme c'était une amie à moi qui m'avait dit aussi, Mel, elle était venue souper chez moi en me disant, là, Joe, j'étais à la même place que toi. Là, t'oses pas prendre d'antidépresseur. Puis tu sais, on discutait de, Joe, j'étais à la même place que toi lorsque mon copain a eu un accident de voiture puis il est décédé, puis que je pensais plus que j'avais de raison de vivre. Puis que m'a dit, là, en ce moment, imagine que t'es dans un tunnel, mais qui est tellement long que tu vois même pas la lumière au bout. Mais au-dessus de ce montagne, puis le tunnel traverse une montagne, là, t'es en plein centre là, en ce moment-là. T'es dans la bonne direction parce que tu t'es allé chercher des médicaments, tu consultes, puis continue à avancer, puis peu importe le temps, il y a du monde qui vont tout de suite sortir à la lumière, il y a du monde, ça prend un peu plus de temps. Mais elle dit, au-dessus de ce montagne-là, là, il fait tellement beau, puis tu l'as oublié, c'est tout. Puis c'est tellement l'image qui m'a resté. Faut pas que je sois claustrophobe de ce tunnel-là, faut que je continue à avancer dedans. Et aujourd'hui, je regarde justement mes deux fils, tu sais, tous les week-ends de camping qu'on s'est fait, qu'on va se promener en canot, qu'on va regarder des animaux, les montagnes qu'on monte, les voyages qu'on fait, les fous rires qu'on a à la maison quand on déconne. T'sais, c'est comme tout ça, je peux même pas concevoir que j'ai pensé manquer ça, tu sais.
Ouais.
Puis je me dis à quel point je suis capable de le figurer, mais je suis capable de me concentrer puis ressentir cette douleur-là. Là. Mais je suis capable, par contre, de me dire, persuadé que j'avais extrêmement mal pour de vrai quand j'y ai pensé, mais que ça équivaut même pas le bonheur que j'ai en ce moment d'être dans ma cuisine en train de faire des cupcakes avec mes gars, puis de se lancer de la bouffe, puis d'être en retard pour le hockey, puis de partir sa route après ça en tournoi, puis de donc rire à l'hôtel avec les gars à jouer au mini-hockey dans le centre d'hôtel. Tout ça, là, ça a pas de prix. Là. Ça a juste pas de prix. Puis c'est tellement important de le rappeler aux gens. Il y a du monde qui t'aime, puis il y en a des beaux moments devant, même si tu penses qu'il n'y en a plus. T'es juste en plein milieu de la montagne puis du tunnel, puis tu vas y aller. Là.
Dernière question pour toi, Jonathan. Parlons d'espoir. Je pense que c'est au cœur de la prévention. On a des auditeurs qui, probablement, peut-être, vivent des moments difficiles, qui nous écoutent en ce moment. Ça serait quoi que tu leur dirais si tu avais à t'adresser à cette personne-là là, qui pense sérieusement à s'enlever la vie? Là?
Je dirais... Mot pour mot, ce que je viens de dire deux secondes avant, tu comptes pour des gens. Tu comptes pour du monde qui t'aime énormément. Et si tu me dis non, moi, j'ai plus de famille, j'ai plus de blonde, j'ai plus d'amis, je suis tant tout seul à gamer chez nous, je te dirais, c'est quoi? Tu comptes pour toi.
Mm.
Tu comptes aussi pour toi. Toi aussi, il n'y a rien qui t'empêche de sortir de ton appart, puis de lâcher tes jeux vidéo, puis d'arrêter, ou de t'enfermer, puis de lâcher la bouteille, puis d'aller t'amuser, puis de te payer un voyage au Portugal, puis de partir en road trip, de partir sur le pouce, puis de vivre des choses, puis de réécrire cette histoire-là, t'as du beau devant toi à réécrire, et c'est pas un seul chapitre qui fait en sorte qu'il faut que t'arrêtes d'écrire ce livre-là, tu sais. Ça arrive, là, une pause, mais c'est juste que quand on est dedans, on a l'impression que il y en a pas de solution. Mais il y en a tellement de solutions, que ça soit, puis de commencer par texter. Tu sais, là, je le dis partout, 53, 53, 53, t'es gêné d'aller voir une psy, tu sais pas comment extérioriser ton mal de vivre, t'es chez vous, tu tournes en rond, tu fais des attaques de panique, texte 53, 53, 53, tu vas pouvoir texter avec quelqu'un qui va t'aider. Sinon, c'est le suicide.ca, tu peux aller clavarder avec des travailleurs sociaux, des gens qui vont t'aider, t'as le 1-866-APPEL aussi qui peut t'aider, t'as les centres de crise du Québec qui peuvent t'aider. Google, là, pour vrai, là, centre de crise du Québec, mets ton nom de ville à côté. Il va avoir un numéro de téléphone qui va apparaître, tu t'appelles, puis tu peux même aller dormir là si tu veux, c'est gratuit. Ils vont t'aider, puis ils ont des psychologues sur place, puis ils ont des travailleurs sociaux sur place. Il y en a beaucoup de solutions, c'est juste qu'il faut les mettre de l'avant. Là. Parce que les gens, lorsqu'ils sont là-dedans, puis mettons que je parlais à un tu vas réaliser l'aide qu'il y a autour de toi, c'est juste que tu ne sais pas, puis c'est différent. Puis te garantis que le tunnel il est différent pour chaque personne, mais qu'au bout, tu vas réussir à sortir de ce montagne-là, puis de l'autre bord, là, il y a des cristaux de beaux paysages. Là. Ça existe, là.
Écoute, Jonathan, je pourrais jamais te remercier autant pour deux choses. Premièrement, d'avoir accepté cette entrevue. Vraiment, encore une fois, plein de gratitude pour ta présence, mais aussi pour ce que tu fais. Ça fait presque une dizaine d'années maintenant que tu t'es ouvert, que tu es un ardent défenseur. Tu fais tomber les barrières en matière de stigmatisation. Tu sensibilises les gens, que ce soit au niveau de l'anxiété, la dépression, de la prévention du suicide. Je te dirais que je suis un fan. Je suis privilégié de t'avoir eu aujourd'hui en face à face. Ça fait longtemps que je voulais te croiser. Puis merci pour tout ce que tu fais. Puis je le dis au nom de toutes les gens qui nous écoutent, puis probablement de tous les Québécois qui te vois aller puis dis ça c'est un champion de la santé mentale. Et je te dis ça de mon fond.
Ah, t'es comme tellement fin, Martin. Je l'apprécie, je le prends. Puis pour vrai, là, cette semaine, je réalisais tout l'impact que j'ai pu avoir avec ce texte-là qui était à la base une V1 pour aider un ami qui allait pas bien durant trois nuits de suite. Si c'est pas de ce gars-là, peut-être que jamais j'en parle, tu sais. À quel point est-ce que on dit tantôt on sous-estime hein, l'impact d'une phrase, mais c'était grâce à un gars à quelque part à Montréal que aujourd'hui je suis rendu porte-parole de ça parce que j'ai réalisé que la validation était souvent l'étape numéro un pour aider le monde. Fait que ça me fait plaisir, Martin, puis merci pour tes bons mots. Je l'apprécie énormément.
Ceci met fin à cet épisode du balado Entre les deux oreilles. Premièrement, un grand merci à mon invité cette semaine, Jonathan Roberge, humoriste mais aussi ambassadeur de la semaine de la prévention du suicide. Merci à l'Association québécoise de la prévention du suicide, la QPS, d'avoir facilité la réalisation de cette entrevue. J'en suis vraiment reconnaissant. Merci à la QPS. Merci à nos partenaires Relief, Le Chemin de la santé mentale et InPower. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié, bien on vous invite à vous abonner au balado sur votre plateforme favorite, que ce soit Apple, Spotify. En fait, on est vraiment partout. N'hésitez pas à liker, commenter, à nous poser des questions. Lydia et moi aimons beaucoup interagir avec vous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. On est vraiment facile à trouver. Vous avez juste à taper entre les deux oreilles dans les différents moteurs de recherche. Venez nous visiter sur notre site web au www.entreletdeuxoreilles.ca. Vous y trouverez l'ensemble des épisodes du podcast. Vous allez retrouver également des textes et un répertoire des ressources d'aide partout au Québec. Enfin, message très important. Comme le mentionnait Jonathan lors de l'entrevue, si ça ne va pas, si vous avez des idées noires, des pensées suicidaires, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide par téléphone au 1-866-APPEL, soit le 1-866-277-3553, ou par chat au 535353. En mon nom personnel, Martin Binette, et au nom de Lydia Mignot, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve très bientôt pour le 34e épisode du balado en santé mentale et santé mieux-être entre les deux oreilles. Ciao!